Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous arrivez. Ma mission, vous la connaissez désormais, vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs du changement. Et ces acteurs, ils se sont succédés tout au long de l'année sur Europe 1 pour partager leurs projets, les faire éclore, les faire grandir, pour être challengés aussi. Que sont-ils devenus? Où en sont-ils? On a eu envie de prendre de leurs nouvelles. Émission spéciale aujourd'hui. C'est aussi ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, évidemment, comme tous les jours, le standard vous est ouvert pour cette émission spéciale, car tous ceux et celles que vous allez entendre sont déjà venus ici à Europe 1.
Oui, bien sûr. Vous n'hésitez pas à témoigner et à nous dire ce que vous avez aimé cette année au 39-21, les innovations qui vous ont particulièrement marqué. Et puis, vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et pour les accueillir, ces invités, elle est là, fidèle au poste. Bonjour Elisabeth Assayag.
Et bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Notre coach est là aussi. Aujourd'hui, c'est Eric Léandri, fondateur de Quant. Bonjour Eric.
Bonjour.
Le 28 août, nous lancions sur Europe 1 La France bouge avec cette idée, vous montrer qu'il y a partout des gens formidables qui ont des idées, qui se donnent les moyens de les mettre en œuvre et qui changent le monde à petite, moyenne ou à grande échelle. Ce jour-là, pour notre première, c'est d'énergie qu'on avait choisi de vous parler. Et parmi nos invités, il y avait Julien Tchernia qui est avec nous dans le studio, mais qui a une toute petite voix. Alors il n'est pas venu seul, il est venu avec vous. Donia Baghdadi, bonjour.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la cofondatrice avec Julien d'Équateur. Équateur, c'est le plus gros des petits fournisseurs, hein, si on résume. Vous êtes le cinquième aujourd'hui en France.
On est le cinquième fournisseur en France, oui.
Et alors, votre idée, c'était dès le départ de faire de l'électricité 100% verte et du gaz naturel. Vous avez démarré en 2015. Ça a été un peu compliqué au départ, mais très rapidement, les choses ont évolué. Vous aviez comme ambition d'atteindre les 100 000 clients quand vous êtes venu la dernière fois. Est-ce que c'est fait ?
J'ai le plaisir d'annoncer que c'est fait.
Oui.
Nous, on a continué notre croissance, on a continué notre petit chemin. Aujourd'hui, on est content d'avoir 100 000 compteurs à notre actif et on va continuer la croissance.
100 000 clients, ça c'est fait, vous avez coché cette case-là. Un mois après l'émission, je crois que vous aviez été invité au Charge Energy Award et vous avez gagné, il est avec
Exactement.
Vous d'ailleurs,
il est là.
Le trophée, le titre de meilleure marque verte au monde.
Exactement.
Mais c'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. On était ravis, non mais oui, il est lourd aussi,
oui.
Il est énorme le prix. On était ravis, on était sur le podium, déjà c'était une première victoire et après avoir le premier prix de l'énergie verte, c'était une marque pour nous que notre modèle fonctionne, qu'il est internationalement reconnu par des experts. Du domaine et que du coup on peut fournir de l'énergie verte à prix compétitif.
Oui, c'est important ce prix parce qu'en fait ils sont allés tester, ils ont appelé vos clients avant de vous le remettre.
Exactement, ça démontre que le client il est au centre de notre modèle, de le modèle d'Équateur et que de toute façon ça passe par les clients, cette transition écologique.
Aujourd'hui vous avez aussi gagné des contrats importants, notamment avec l'État.
Oui.
Les ministères au 1er janvier seront fournis par Équateur.
Exactement, la majorité des ministères seront fournis par Équateur et aussi des établissements publics. C'est un renouvellement de confiance parce qu'on avait déjà gagné il y a 3 ans alors qu'on venait à peine d'être lancé 3000 établissements publics. Ils ont apprécié et du coup ils ont renouvelé leur confiance en nous donnant beaucoup plus d'établissements, donc presque la majorité des ministères et les établissements tels que Chambord, Centre Pompidou et l'ADEME, donc l'agence donc de la maîtrise de l'énergie et fourni par Équateur.
C'est important quand l'État suit, hein, Eric Léandri.
Oui, mais c'est important et d'ailleurs, c'est génial. Ça commence à être de plus en plus le cas. Bon, vous allez être attaqué, vous inquiétez pas. Hein. Mais en dehors de ce point précis, c'est très important. Et dans la foulée, moi, je suis super bluffé. Alors, je ne connaissais pas Équateur, pourtant je connais un peu votre métier parce qu'on travaille avec AQO. Donc AQO, nous, on a aidé à crowdfunder pour 2,5 millions d'euros de centrales hydrauliques, solaires et éoliennes, avec AQO COP. Ils en ont d'autres en partenaire comme Plume. Pourquoi vous ne venez pas nous voir, des gens comme nous? On vous relaie immédiatement.
Alors Julien fait oui de la tête, hein, mais il ne peut pas parler.
Je peux parler, mais on vient vous voir.
Il y aura déjà des échanges, ça arrive. On compatit.
Il y aura déjà des échanges de cartes, je pense, à la suite.
Bon, et puis il vient de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Il a parlé de crowdfunding tout à l'heure. Vous êtes en train de faire votre deuxième levée de fonds, c'est ça?
On a bouclé notre deuxième.
Ça y est, elle est faite.
On a levé 10,6 millions d'euros. La majorité, donc, c'est nos
investisseurs. On est loin des 500 000 de départ, dites-moi.
Plus grande ambition, plus grande la levée pour continuer justement la croissance et les services pour maîtriser sa consommation et pour donner dans la main du consommateur le moyen de comprendre sa consommation pour mieux la maîtriser. Parce que consommer de l'énergie verte, c'est bien, la maîtriser, c'est encore mieux.
Et vous continuez aussi à lever des fonds en collaboratif.
Exactement.
Ça, c'est important.
Ça, c'est très important. C'était
dès le départ, dans la charte.
Exactement. C'est, pour nous, ça fait participer parce que dans notre ADN, le collaboratif, c'est important sur plusieurs aspects et sur le financement aussi. Et on a eu la chance de battre un record de levée de fonds participatifs avec 1,2 million d'euros levés sur une plateforme participative avec nos clients qui nous ont renoué leur confiance.
Alors, je vais me tourner vers Elisabeth, oui, parce qu'on a plein de nouvelles.
On a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui.
De toutes les personnes qui sont venues dans cette émission, qui nous écrivent, qui nous disent, bah voilà, on en est à tel point, tel point. Je crois qu'on avait envie de prendre des nouvelles de Lisa Chavy. Lisa,
oui,
Chavy, c'est la fondatrice de Livy.
De Livy, vous savez, la petite marque de lingerie qui a commencé il n'y a pas longtemps. On l'avait reçue dans la France Bouge. Et bien, ça va très bien pour elle, parce que en février, la marque française, donc cette petite marque française, a été mise à l'honneur grâce à un partenariat avec le géant Victoria's Secret aux États-Unis. Elle a été présente dans le plus grand magasin de la 5e avenue à New York. Il y a une boutique qui s'est ouverte à Montpellier, notamment, récemment. Donc, ça bouge très, très fort pour la marque Livy.
Et puis, vous avez aussi des nouvelles de Ma Place en Crèche.
Oui, Ma Place en Crèche, vous vous souvenez peut-être, c'est une plateforme qui vous permet de trouver une place en crèche pour les salariés d'entreprise, pas au sein de votre entreprise, mais dans une entreprise. Eh bien, ils ont annoncé le lancement de Parents at Work. C'est le premier label officiel des entreprises engagées pour la parentalité de leurs collaborateurs.
On reste ensemble et on continue à prendre des nouvelles aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous vous souvenez peut-être de ce bracelet connecté pour les femmes victimes de violences. Appel a conquis des marchés depuis le mois de novembre. A tout de suite.
Vous écoutez La France Bouge, que sont-ils devenus ? On est avec certains de vos invités de l'année, Raphaël Duchemin sur Europe 1. Et quels sont les projets présentés dans La France Bouge ces derniers mois qui vous ont marqué ? Vous n'hésitez pas à nous le dire au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Allez, on rembobine et on s'en va au 23 novembre de l'année dernière. Ce jour-là, pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, on avait décidé de vous parler d'une initiative qui nous touchait tout particulièrement. C'est la vôtre, Diarratan Ndiaye. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente et fondatrice d'Appel, de Résonante, hein, qui est l'association. Et Appel, c'est le dispositif, ce bracelet connecté pour les femmes qui subissent des violences. Pour vous aussi, les choses se sont accélérées depuis que vous êtes venue au mois de novembre sur Europe 1. Quand vous êtes venu, il y avait 3000 téléchargements. Aujourd'hui, je crois que ce sont 8000 personnes qui vous ont dans leur téléphone.
C'est ça. On a 8000 téléchargements, un peu plus de 8000 téléchargements. Et on a une utilisation par mois de 800 à 1200. Donc, on a tous les mois entre 800 et 1200 personnes qui alertent, qui lancent une alerte pour demander de l'aide, qui appellent des structures pour être conseillées, qui s'informent sur les solutions qui existent pour elles.
La médiatisation vous a aidé au moment où cette question, justement, était érigée en grande cause nationale ?
Alors, c'est vrai qu'il s'est passé, sur ces dernières semaines et ces dernières années, un mouvement comme MeToo, par exemple, il a permis de donner de la visibilité et de faire prendre conscience au grand public qu'il y avait un sujet. Donc, les choses n'avancent pas assez vite. Là, on en est encore à la prise de conscience. Les gens, il fallait éduquer les gens, il fallait faire comprendre aux gens qu'il y avait un problème et nous, on arrive avec une solution, et une solution qui existe depuis 2015.
Oui, parce que vous aviez eu du mal depuis 2015 à vous faire entendre. Vous aviez frappé à beaucoup de portes et ça ne s'ouvrait pas forcément.
C'est vrai qu'en 2015, utiliser le digital au service de la lutte contre les violences, on était un peu des ovnis. C'est-à-dire qu'on a été la première application mobile pensée pour les femmes victimes de violences et les gens n'étaient pas prêts. Aussi bien les associations, en fait, parce que c'était quelque chose de nouveau. On ne savait pas si on pouvait faire confiance à la technologie. Et puis, quand on porte un projet comme celui-là, qui est ambitieux, qui demande des financements, et qu'on est tout, enfin voilà, et qu'on arrive avec quelque chose d'innovant, il y a très peu de personnes qui nous suivent, mais on s'est bien battu.
Oui, oui, vous êtes bien battu. Vous étiez, je crois, référencé dans 500 structures. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 5.
Alors, l'application, elle propose différentes fonctionnalités. Donc, une fonction d'alerte qu'on peut utiliser partout dans le monde.
Bien sûr.
Ensuite, la fonction en parler qui permet d'entrer en contact avec les structures qui existent et qui accompagnent les femmes victimes de violences. On était à peu près 500 structures de référencées. On est à plus de 2500 structures de référencées dans plus de 12 pays. Donc, c'est une application qui est utilisée au Sénégal, par exemple, qui est utilisée au Canada, enfin... On a créé un outil qui correspond à une problématique, malheureusement, qui touche toutes les femmes partout où elles se trouvent. Et donc, on a une solution qui correspond à toutes ces femmes-là.
Vous avez Facebook hein, derrière vous, qui vous a aussi permis, finalement, de toucher beaucoup de monde.
Alors déjà, la première chose qui nous a donné une grosse visibilité, c'est d'avoir reçu un Innovation Award au CES de Las Vegas. Donc, ça a donné une bonne visibilité. Puis, on était assez fiers... en tant qu'association, de prouver qu'on pouvait innover et arriver avec des solutions inédites. Ensuite, en février, donc, on a été lauréat donc, du prix Facebook. Et d'avoir cette grosse dotation nous a permis de faire en 4 mois ce qu'on avait fait tout seul en 4 ans.
Ouais. Donc, et lauréat aussi de la France s'engage
Tout à fait. Très récemment, la Fondation La France s'engage à nos côtés. Et puis, le secrétariat d'État aussi qui nous soutient sur la diffusion de cet outil.
Eric, notre coach.
Bon, on va rester sérieux là, parce que ça c'est sérieux. Tout à l'heure vous avez dit que ça ne va pas assez vite. Qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est quoi aujourd'hui les fonds que vous avez eus dans ces deux dotations ?
Concrètement, juste pour rappel, Résonante, on est tous bénévoles. On a eu notre premier salarié en avril. Et donc ça sous-entend que pour porter des projets comme Appel, qui sont d'utilité publique, qui prouvent leur nécessité, il faut des personnes qui y croient et qui s'engagent et qui travaillent bénévolement. Comme c'est mon cas depuis 4 ans et c'est le cas de toute l'équipe de Résonante. Comme je le disais, un financement de 200 000 euros, il nous a permis de faire en 4 mois ce qu'on a fait en 4 ans. 200 000 euros, c'est rien, concrètement. Donc, la question de la lutte contre les violences, elle nécessite des financements parce que tout simplement, on ne considère pas les victimes comme un marché et il est hors de question qu'elles payent ou qu'elle paye pour accéder à ces services. Et donc quand c'est gratuit, ça sous-entend qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour développer un outil.
Vous avez chiffré ce besoin ou pas encore ?
Alors nous, on est sur 1 million. On a besoin d'1 million pour pouvoir avoir une application, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et d'offrir un service qui est correct.
On a essayé du crowdfunding là-dessus ?
Alors, on a essayé. C'est vrai que l'année dernière, on s'est lancé sur la création du bracelet, parce qu'on a créé un bracelet qui est relié à l'appli, qui permet d'enclencher l'alerte sans avoir à sortir son téléphone. Mais on a ramé, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est contre les violences faites aux femmes.
Ouais, mais personne ne veut financer.
Ouais, c'est ça. Et donc, on a fait un crowdfunding qui s'est assez bien passé. On avait réussi à lever 76 000 euros, mais c'est ridicule.
D'accord.
Donc, ça nécessite des moyens. Et là, on a la chance d'avoir des entreprises qui travaillent sur du mécénat de compétences et d'avoir des grands groupes comme Facebook, La France s'engage ou le gouvernement à son échelle qui nous finance.
Ce qui est important de dire aussi, c'est que vous allez en plus lancer une campagne, une nouvelle campagne au mois d'octobre, une nouvelle version aussi d'appel qui va être disponible.
Alors là, on arrive sur une nouvelle version.
Donc cet argent, il est véritablement utile.
C'est ça, on sera enfin disponible sur iPhone parce qu'on avait cette problématique à le soulever. On le sera dans les prochains jours, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, maintenant qu'on a un outil qui est utile, qui est concret, faut que les gens sachent que ça existe. Et pour que les gens sachent, il faut faire une grande campagne de communication. Et la com, ça coûte pas mal d'argent.
Enfin, chez moi, on vous l'offre, mais ailleurs, je peux pas faire plus.
Mais chez vous, bon, mais c'est cool.
Sur Quant,
ouais,
voilà,
c'est ça.
C'est déjà ça de gagner. Et puis ici aussi, on est ravis de vous accueillir et de pouvoir parler d'appel parce que pour nous aussi c'est important de dire que les violences faites aux femmes il faut lutter contre et que ça passe par des actions comme
et qu'il
vôtre.
Existe des solutions et c'est vrai que nous notre message qu'on porte depuis le début c'est vous n'êtes pas seule et ce n'est pas une fatalité et ensemble vous n'êtes pas seule et ensemble on peut y arriver quoi.
On est en train de parler de levée de fonds, Elisabeth. Rien à voir, hein, autre sujet, mais puisqu'on parle
dans
dans
les nouvelles. Hein,
on a des nouvelles
de
Havre.
Oui, Havre, H-A-V-R, vous savez, cette serrure connectée, ultra sécurisée, qui permet d'ouvrir la porte d'entrée grâce à de la lumière. Eh bien, Havre vient de lever 1,7 million d'euros auprès d'un pool de 6 banques.
On reste ensemble et on continue notre Tour de France des initiatives aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Sauver des vies, c'est aussi le credo de Permis de Sauver. Ces pompiers, souvenez-vous, étaient venus présenter leur dispositif au mois de septembre. Et depuis, eux aussi ont fait bouger les choses. A tout de suite.
Vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1, les meilleurs souvenirs de la France bouge aujourd'hui, les projets innovants que vous avez aimés, que vous avez peut-être adoptés, testés à la maison, il faut nous le dire. Au 39-21, vous n'hésitez pas à nous appeler et puis également pour nous écrire Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Alors au mois de septembre, on avait repéré une initiative dans un quotidien régional qu'on trouvait, Elisabeth, formidable.
Ah, formidable, hein,
vous vous souvenez? Ça s'appelait Permis de Sauver, cette initiative, c'est celle de trois pompiers. Bonjour Mehdi Boudjema.
Bonjour Raphaël.
Merci
bonjour à tous.
D'être avec
bonjour.
Nous. Vous êtes
merci à vous.
L'un des trois fondateurs de Permis de Sauver. Il y en a un autre qui est juste derrière vous.
Moi.
Il en manque, il manque le troisième. Une appli qui nous permet de trouver les sauveteurs les plus proches de chez nous. Quand vous étiez venu nous voir, ça commençait à se développer. Il y avait une dizaine de départements qui vous suivaient et qui avaient commencé à s'équiper de votre appli. Aujourd'hui, vous êtes à combien?
On a multiplié par deux le nombre de départements depuis février.
Donc 20,
on a une vingtaine de départements, 22 exactement.
Ouais.
Et d'ici la fin de l'année, on espère en avoir une trentaine.
Une trentaine. Et puis vous vous êtes déployé à l'international aussi.
Exactement. Ouais. L'application aujourd'hui est utilisée dans certains pays européens, et notamment l'Italie. Et on est en train de discuter avec l'Espagne également.
Vous avez aussi, et ça c'est un phénomène intéressant, de plus en plus de gens qui s'inscrivent pour être volontaires.
Oui. Alors, il y a eu un grand engouement de la population. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 80 000 téléchargements de l'application. Donc, on a un réseau de citoyens secouristes qui sont à disposition des services d'urgence qui grandit et qui est de plus en plus important.
Alors, il y a les citoyens sauveteurs et il y a les inscrits. Hein. Il faut faire le distinguo,
oui,
c'est ça?
Exactement, tout à fait. Alors, on a tous un rôle à jouer dans la chaîne des secours. Quand on est secouriste et qu'on se... déclare comme tel dans l'application, dans son profil, on est alertable par les services d'urgence, donc les pompiers ou le SAMU, pour aller réaliser des gestes de premier secours. En revanche, si on n'est pas secouriste, on a quand même un rôle à jouer. On peut assister les services d'urgence grâce à la vidéo ou à la photo, ce qui leur permet d'assurer une meilleure réponse opérationnelle. Mais on peut aussi aider le secouriste à aller récupérer, par exemple, un défibrillateur. On est guidé jusqu'au lieu du défibrillateur qui est géolocalisé sur l'application pour gagner du temps sur la mise en place du défibrillateur et ainsi augmenter les chances de survie.
Alors ça c'est de la théorie, mais il y a aussi la pratique.
Ouais.
Et en pratique, votre plus belle victoire, c'est que vous avez pu déjà sauver une vie.
Oui, sauver une vie. La chaîne des secours avec ce maillon de permis de sauver a permis en effet de sauver la vie d'un monsieur qu'on salue d'ailleurs, d'une soixantaine d'années, qui a fait un arrêt cardiaque. Ça s'est passé en Dordogne. On salue l'ensemble des acteurs des secours, donc les sapeurs-pompiers, le citoyen.
Comment ça s'est passé?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a fait un arrêt cardiaque sur la voie publique. Les premiers témoins ont réalisé ont passé l'alerte au service d'urgence. Les pompiers ont déclenché une ambulance. Et en parallèle, ils ont déclenché un maillon de permis de sauver qui s'est rendu dans les 5 minutes. Parce que notre défi, c'est de pouvoir créer un réseau important pour que les victimes soient prises en charge dans les 5 premières minutes. Donc la victime a été prise en charge dans les 5 premières minutes. Un deuxième secouriste l'a rejoint avec un défibrillateur. Et le cœur de ce brave monsieur est reparti. Et comme vous l'avez dit, c'est notre plus belle victoire. On a gagné. Quoi.
Que dit notre coach? Eric.
Qui sauve une vie sauve le monde, hein, donc il faut continuer. Hein. Donc résultat de l'histoire, comment vous faites connaître votre business model? Je sais que c'est la vente aux 10, donc ça c'est très bien, c'est pas la vente de données personnelles. Moi ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment vous faire connaître au plus large, au plus de secouristes, quel est votre plan?
Alors encore une fois, nous, vous l'aurez compris, plus on communiquera là-dessus, et d'ailleurs on vous remercie parce que grâce à vous, on a pu... multiplier notre réseau de citoyens sauveteurs. Donc, on a besoin, et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la communication, c'est quelque chose qui a un coût. On a besoin de communiquer au maximum pour pouvoir créer un réseau le plus important possible et disponible pour les services d'urgence.
Donc aujourd'hui, c'est ça qui vous fait défaut, encore un petit peu, la communication?
Oui, encore un petit peu. On aimerait pouvoir lever des fonds pour pouvoir communiquer un maximum. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le service est gratuit. C'est-à-dire qu'on met à disposition gratuitement notre solution au SDIS et au SAMU.
Ouais. Vous aviez des projets communs aussi avec certains lauréats des trophées de l'avenir d'Europe 1. Où est-ce que ça en est? Racontez-moi.
Oui, écoutez, grâce à la soirée des trophées de l'avenir, on a pu rencontrer donc le SDIS de l'Indre qui va en septembre déployer donc l'application Permis de sauver. Donc en effet, il y a eu une belle connexion et puis on va collaborer ensemble sur ce projet-là.
On travaille sur le nouveau 112 avec Gaël chez moi, donc on aimerait bien vous voir, comme ça nous fera plaisir, et puis ça fera un autre truc gratuit à promouvoir. Je crois que mes services qui vendent ma page vont devenir fous avec le nombre de gratuits, mais ça c'est à cause d'Europe 1. Il faut amener des gens qui font du social et du top, donc il va falloir qu'on aide.
Et dites-moi, je pensais, il y a le SDIS et puis il y a WeGoTo, vous aviez commencé à travailler avec eux, où on en est?
Oui, alors on avait commencé à travailler avec WeGoTo, on avait pas mal échangé sur cette notion de cartographie.
Justement, oui, ça pouvait être très utile pour vous.
Parce que nos citoyens sauveteurs ou nos citoyens sont guidés sur une cartographie à partir du moment où ils sont alertés pour se rendre sur les lieux de l'accident. Le calendrier a fait qu'aujourd'hui on n'a pas pu avancer plus que ça, mais en tout cas on est toujours
vous êtes toujours en contact et
c'est toujours dans les cartons, dans les tuyaux.
Elisabeth, on s'intéresse à d'autres bébés France Bouge, hein. Moi je les appelle comme ça, mais bon. Entre le petit ballon et c'est qui le patron, Elisabeth, qu'est-ce que ça donne?
Parce que quand on partage les mêmes valeurs, la meilleure idée c'est de s'associer, hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, Eric. Eh bien c'est ce qu'a fait le petit ballon. Le petit ballon, je vous rappelle ce que c'est une box que vous recevez chaque mois à la maison de deux grands vins sélectionnés par un maître sommelier. Et le créateur de C'est qui le patron, Nicolas Chaban, s'est dit « Tiens, ça c'est pas mal ». On va accompagner le lancement du vin décidé par les consommateurs en le proposant à la vente en avant-première sur leptitballon.com. Voilà, des synergies sont créées grâce à la France Bouge et ça va continuer.
Eh oui, ils sont à l'écoute, nos coachs. C'est pour ça qu'on les aime. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va aussi rester chez les pompiers et vous allez voir qu'ils donnent l'exemple. Le recyclage des tenues est en cours. À tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1, merci de choisir La France Bouge. En direct jusqu'à 14h, vous êtes avec Raphaël Duchemin et c'est une émission un petit peu spéciale.
Oui.
Quelles sont les innovations françaises présentées par les invités de La France Bouge que vous avez particulièrement relevées cette année? Certains sont dans ce studio, mais vous également, vous pouvez réagir et nous choisir d'autres invités. 3921 et Twitter, hashtag Europe 1.
Le 9 janvier, vous étiez peut-être derrière votre radio quand le commandant Paul Malassigny est venu nous voir ici à Europe 1. Eh bien, il est de retour aujourd'hui. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On est ravis de prendre de vos nouvelles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois. Votre projet, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, recycler les tenues des pompiers, tenues inifugées évidemment, et leur trouver une nouvelle vie. Vous avez fait une caserne entière qui va être inaugurée bientôt, au mois d'octobre. 1000 mètres carrés, c'est ça? Fait entièrement en fibre recyclée.
Exactement. Donc la caserne des Guzons a été complètement isolée.
Dans l'Indre, évidemment.
Dans l'Indre, naturellement, oui. Il est nécessaire de le préciser. Elle a été complètement isolée avec de l'isolant issu donc de déchets, hein, sapeurs-pompiers, retraités et transformés en matériaux d'isolation. À une petite exception près, puisque les bureaux d'études ont refusé sur une partie de la toiture de le mettre en œuvre. Et ça va être d'ailleurs tout l'enjeu de ces prochains mois, c'est de finaliser toute la partie certification. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup les normes et les certifications.
Alors justement, ce process de certification, c'est ce qui pose un petit peu problème. C'est encore très très long. Hein. Vous dites d'ici 4 ans, si tout va bien, les architectes pourront véritablement faire appel à nos matériaux. Pour l'instant, vous arrivez à passer sur des marchés publics qui sont inférieurs à 100 000 euros. Sinon, il faut tout un tas de validations que vous n'avez pas encore.
Alors, il y a deux aspects dans ce que vous venez d'évoquer, madame. Le premier, c'est effectivement la certification. On a bon espoir que ce soit beaucoup plus court. Les partenaires industriels sont en train de travailler dessus. Mais c'est vrai que la certification, il y a énormément d'expertise pour s'assurer naturellement qu'il n'y a pas de risque. Il faut avouer que parfois, au regard de l'énergie débauché. Quand on regarde le résultat, l'homme de l'art reste perplexe. Mais bon, ça c'est une considération personnelle. Néanmoins, il y a du travail qui est fait dans ce domaine-là, puisqu'il y a la qualification du produit et ensuite l'autorisation de le mettre dans telle ou telle configuration du bâtiment. C'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est là-dessus que nous avions des lacunes. Et vous dites 4 ans, j'espère bien qu'en moins d'un an, cette affaire sera réglée. Donc ça, c'est le point concernant la certification.
4 ans, c'est la fourchette haute.
Voilà. Et donc, le deuxième point, c'est que je pense aussi que cet isolant, on le destine d'abord aux bâtiments, casernes, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, casernes militaires. Pour une question aussi, il faut être réaliste sur l'approvisionnement. Et dans un premier temps, on ne pourra pas répondre aux besoins du particulier, bien évidemment, parce qu'il faut une quantité de matière qui soit suffisante. Cependant, j'espère bien que l'éclairage d'Europe 1 nous permettra d'avoir des volontés de la part des armées, de la part de la police, de la gendarmerie, de s'associer à cette démarche. Parce que concrètement, la filière est créée. Et d'ici 4 ou 5 ans, il n'y a plus de raison qu'il y ait des déchets textiles qui sortent de nos administrations. On a la possibilité de le retraiter.
Alors aujourd'hui, vous allez même encore plus loin, parce qu'ici, vous avez rencontré un certain Thomas Huriez, fondateur des Jeans 1083, qui fait partie de nos coachs. Et vous avez noué un partenariat avec lui pour, cette fois, recycler, vous ne vous arrêtez pas, le linge de corps, les maillots, les pulls, les t-shirts des pompiers.
Bon, je vois que vous êtes bien informé et maintenant que je suis coincé, effectivement, je vais être obligé d'en parler. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est noué chez Europe 1 au cours de la soirée des trophées. Il y a une connivence. Vous avez parlé de valeurs. Je crois que nous avons des valeurs communes avec Thomas. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait bouger, ce qui donne un peu de sens à ce mouvement perpétuel, de perpétuels agités que nous sommes. Et en fait, l'objectif est effectivement de ne pas s'arrêter simplement à créer de l'isolant, mais créer une économie circulaire qui soit plus complexe, avec des, j'allais dire, qui ramène plus de rendement aussi, pour permettre de traiter tout ce qui est la maille.
Votre polo, par exemple, aujourd'hui, vous allez le détricoter, en refaire du fil et le retricoter. En bonnet, en écharpe, l'instant ?
Il y a deux étapes. La première, c'est que les collègues sapeurs-pompiers du Tarn et de la Drôme avaient travaillé avec Thomas, dans un premier temps, pour créer, à partir de pulls, voilà, militaires, pompiers, des écharpes, des bonnets, sur une marque qui avait été créée de manière épisodique. Et nous avons décidé, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et son président, le président Grégory Allione, de s'associer à Thomas Huriez, sur la base d'une économie circulaire, pour, étendre cet essai, qui était une réussite, donc sur aussi une initiative du territoire, l'étendre au niveau national pour créer un partenariat qui sera fondé, qui sera consolidé du 18 au 21 septembre, au Congrès des sapeurs-pompiers, notre gros événement à Vannes. Et d'ailleurs, écoutez, puisque vous êtes à l'initiative de ces belles rencontres, eh bien, vous êtes naturellement cordialement invité cet événement.
Ce sera avec plaisir. Que dit notre coach, Eric ?
Moi, je suis super impressionné. Équateur, première marque mondiale dans l'énergie verte. Et ton projet, juste, ça n'existe juste pas sur la taille de l'Europe.
Ouais.
Une économie circulaire.
Je vous laisse imaginer combien de tenues de pompiers on peut recycler à travers le monde. Parce que c'est ça, son ambition.
A priori, effectivement, ça n'existe pas. Là, pour l'instant, il y a 30% des tenues, une partie des tenues, on l'a dit, donc juste les pantalons et la veste qui sont d'une matière particulière, parce que l'importance en économie circulaire, c'est le gisement, c'est-à-dire être capable de regrouper dans un premier temps une matière qui se ressemble. Pour faire simple avec du plastique, si je mets du vert avec du plastique bleu et que je fonds ça, ça va faire un truc moche. Donc le but, on ne peut pas l'utiliser. Il faut pouvoir l'exploiter. Donc on va d'abord travailler sur la tenue, ça c'est l'isolant, et la maille, elle, va être transformée. Et le but, c'est de faire un polo et une collection particulière.
Ça veut simplement dire que dans l'économie circulaire, il y a tout à faire et qu'une seule personne avec une très bonne idée qui pousse un truc, transforme quelque chose qu'on enterrait en plein de nouvelles choses que tu es en train de créer les unes derrière les autres. Moi, ce qui me tue, c'est, est-ce qu'on va commencer tous à réfléchir comme ça et que ça va rapidement remonter vers les Veolia, vers les gens qui font aussi de l'économie aujourd'hui, en tout cas, normalement, de l'usage de matériaux usagés, du recyclage. Est-ce qu'on va remonter ce type d'idée et l'accélérer, ou est-ce que chaque fois, ça va être des petits génies dans un coin qui vont nous inventer un truc génial et on va attendre 3, 4 ans, 5 ans pour l'accélérer?
On espère moins, en tout cas.
Moi, ce que j'espère, c'est que derrière, ils vont t'appeler, ils vont tous vous appeler et que ça va s'accélérer.
On l'espère aussi. Elisabeth, on jette un coup d'œil à un autre secteur.
Continue.
Allez. Des nouvelles de Bleu Blanc Ruche, tiens, la marque de miel d'Arnaud Montebourg.
Mais Arnaud Montebourg qui était venu nous présenter ces miels. Hein, vous savez, c'est des miels de repeuplement 100% origine France garantie. Et bien après 6 mois d'expérience, ils ont permis d'augmenter plus de 2700 le nombre de ruches chez les apiculteurs de France. Des résultats tellement positifs. Eh bien, du coup, il recrute 300 vendeurs à domicile Bleu Blanc Ruche.
On reste ensemble et on continue notre tour de France des initiatives La France Bouge.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Recycler, c'est bien et c'est aussi ce que fait GoBuse. Vous ne regarderez plus votre bouteille d'eau de la même manière quand vous saurez ce qu'elle va devenir. À tout de suite.
Comment vont-ils et où en sont leurs projets? Les invités de La France Bouge qui se sont succédés dans le studio d'Europe 1 depuis septembre dernier donnent de leurs nouvelles. Certains sont même avec nous dans ce studio qui se remplit petit à petit. Vous pouvez les voir sur europe1.fr. Et vous alors, quels sont les meilleurs souvenirs, vos meilleurs souvenirs de La France Bouge? 39, 21, 50 centimes la minute. Twitter pour nous écrire, hashtag Europe 1.
Quand on a une bonne idée, ça finit toujours par payer. C'est ce qui s'est passé pour vous, Mathieu Lucasi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de GoBuse. Alors, vous êtes venu en décembre nous parler de ce plastique que vous transformez. Vous récupérez des gobelets comme celui-là en plastique dans les entreprises et puis vous installez des bornes. Et ensuite, eh bien, cette matière-là, vous allez lui donner une nouvelle vie.
C'est bien ça. Alors... pas mal de choses ont bougé depuis le mois de décembre. D'ailleurs, on est aussi sur la collecte des bouteilles plastiques et des canettes, désormais. Oui. Et pour en revenir à nos collecteurs, eh bien, ils sont toujours travaillés par des personnes en situation de handicap à chaque fois dans des ESAT qui sont locales.
Alors, le collecteur, c'est l'endroit où je vais aller mettre mon gobelet une fois que j'ai bu. Ce collecteur, il est en carton recyclable.
Tout à fait. C'est bien ça. Et puis, du coup, ça nous permet d'avoir un impact social en plus de l'aspect économie circulaire dans le projet. On aurait pu très bien utiliser un collecteur avec un bel écran LCD, avec des composants qui ne sont pas toujours très écologiques. Mais nous, voilà, à GoBuse, on aime bien mettre le côté humain en avant. Et du coup, on a choisi de s'orienter plutôt vers cette solution.
Alors, mon gobelet, je l'ai toujours à la main. Mm-hmm. Ce gobelet, il va devenir quoi? Il peut devenir une prothèse, par exemple?
C'est ça. Donc nous, aujourd'hui, les débouchés qu'on offre à la matière plastique qu'on collecte, il y a... pour l'industrie du 3D, donc c'est des filaments 3D concrètement, donc c'est de la matière première secondaire derrière qui est transformée, qui nous sert à imprimer de nouveaux objets avec les imprimantes 3D. Et l'autre côté, ce qu'on sait faire, c'est pour le secteur médical, de la prothèse et de l'orthèse aussi.
Alors depuis le mois de décembre, il s'est passé plein de choses. Vous avez notamment intégré Station F, ça c'était ça. Important pour vous.
Tout à fait.
Vous avez eu aussi un rendez-vous cette semaine, je crois, au ministère de l'Enseignement supérieur.
Tout à fait, c'est ça. Donc ça nous a permis aussi de présenter notre solution, de travailler aussi sur des innovations, parce que ça permet aussi derrière, le fait de travailler dans de nouvelles matières, de trouver de nouveaux débouchés, mais aussi de nouvelles, de nouvelles matières premières secondaires qui peuvent émerger du plastique. Et donc c'est ce qu'on travaille actuellement aujourd'hui.
Vous êtes toujours deux associés, toujours 6 personnes qui travaillent avec vous en freelance.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui, Mathieu, pour que la start-up puisse grandir?
Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on vit un peu la même situation que ce qu'il se passe et dont on parlait tout à l'heure au niveau de, vous savez, des femmes qui sont battues. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, l'écologie, de manière générale, même au niveau des entreprises. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, enfin nous, on travaille uniquement avec
les
entreprises.
On est sur le discours, beaucoup, exactement, mais on n'est pas dans l'action.
Tout à fait. Il y a beaucoup de discours qui sont faits, de beaux discours aussi, mais il y a très très peu d'actions. Nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une... en plus d'une prise de conscience qui est quand même là, qui est quand même présente, eh bien, c'est un simple passage à l'action, parce que nos collecteurs, ils sont assez simples à mettre en place, ils sont assez accessibles, parce qu'on est du carton recyclable, donc les barrières, en fait, les barrières à l'accès, ils sont assez minimes.
C'est juste une histoire de volonté.
C'est juste une histoire de volonté.
D'ailleurs, on va les installer ici à Europe 1,
tout à fait,
à partir du mois de septembre.
Tout à fait.
Vous avez combien de clients, de partenaires aujourd'hui?
Aujourd'hui, sur nos solutions de collecte, on compte à peu près entre 400 et 450 utilisateurs de notre solution, répartis en plusieurs entreprises, ce qui nous permet de pouvoir aussi avoir un gisement qui commence à devenir important. On a à peu près autour des 500 kilos de plastique derrière, ça va nous permettre de créer de la matière première secondaire. Et ce qu'on essaie de faire, c'est principalement la créer pour tout ce qui est matériel médical. Ensuite, on a aussi un beau projet qu'on est en train de mettre en place avec un partenariat qui se finalise avec le groupe Vinci Construction Maritime et Fluviale, bien impulsé par Tony Ponchâteau et aussi Mickaël Lenoir au niveau de Villeneuve-le-Roi, où est installé Vinci Construction Maritime. Et ça va nous permettre de travailler la question du recyclage dans les activités du groupe Vinci. Et ça, je peux vous assurer que là, ils ont vraiment joint les actes à la parole.
Eric ?
Moi, j'ai deux questions. Où c'est alors, le collecteur, donc on le pose dans une entreprise, on y met les tout, on récupère tout. Et après, comment ça marche ? C'est sans vacants, tu récupères comment ? Combien de coins en France peuvent être récupérés ? C'est où et quoi ?
D'accord.
Non, mais pour qu'on fasse du super concret et que les gens commencent à t'amener du plastique.
Écoutez, Eric, c'est très très simple. Okay. On met un collecteur.
Je vous voyais aussi, alors. Allez-y.
Écoute, Eric.
Ça me va aussi. Voilà.
C'est très très simple. On met un collecteur en place.
Ouais.
On a deux manières de mettre le service en place Gobuse aujourd'hui. On peut partir sur de l'abonnement avec une collecte qui est régulière. Ça, c'est plutôt adapté à des entreprises avec une consommation qui est plutôt régulière, des bureaux, par exemple. Ou alors, on a aussi la possibilité d'acheter un collecteur et de nous appeler tout simplement lorsqu'il est plein. Donc là, ça correspond plus soit à des petites quantités, soit à des consommations très très variables, type centre de formation par exemple, ou lieu qui accueille du public.
D'accord.
Derrière, nos équipes viennent ramasser la matière qui est collectée
aujourd'hui,
directement.
C'est quoi, c'est Paris, c'est...
Aujourd'hui, c'est Paris,
d'accord.
L'Île-de-France, et on travaille aussi sur un pilote qui va commencer sur le mois de juillet, sur le côté du Mans, sur un restaurant rapide. Parce que là aussi, il y a des gisements de gobelets plastiques, de canettes et de bouteilles.
Bon, bah, il faut boire un verre d'eau au bureau, comme ça on va finir ça.
D'accord.
Elisabeth, si on parlait de...
horlogerie.
Pas d'horlogerie, de Baudet.
Oui. Baudet. Vous savez, Baudet, ce sont les horloges carrées qui rythment le temps de nos aéroports ou de nos stades. Mm-hmm. Et bien Baudet, cette entreprise française qui existe depuis 1868 en Maine-et-Loire, a lancé sa première collection de montres qui rappelle donc ces horloges carrées. Les dirigeants de l'entreprise familiale sont associés au designer Philippe Lebru.
Eh bien justement, c'est une transition toute trouvée pour la suite.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Eh oui, parce que celui qui va entrer maintenant dans le studio d'Europe 1 a pour ambition, rien que ça, de relancer la filière horlogère en France. Florian Chausson et Routine arrivent. À tout de suite.
Émission spéciale La France bouge sur Europe 1. Que sont-ils devenus ? On prend des nouvelles, Raphaël Duchemin, des invités que vous avez reçus cette année dans ce studio. Où en sont leurs projets ? Et puis la suite ? Et vous, quelles innovations avez-vous retenues ? 3921 pour nous appeler, Twitter, hashtag Europe 1.
Nous sommes le 5 novembre et à l'occasion du salon Made in France, un ingénieur de formation qui a fait un stage dans l'horlogerie en Suisse s'est passionné pour le secteur. Cet ingénieur, c'est Florian Chausson. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de fonder la marque de montres Routine. Routine qui a pour ambition, hein, je le disais tout à l'heure, rien que ça s'il vous plaît, de relocaliser le savoir-faire en matière d'horlogerie en France. Vous aviez lancé un crowdfunding pour créer vos montres 100% françaises. Où est-ce qu'on en est ?
Tout à fait. On s'est lancé du coup en septembre sur la plateforme Ulule. L'objectif c'était de prévendre 100 montres pour lancer la fabrication. On en a prévendu 600 à la fin du financement participatif. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 800 précommandes et on est super fiers parce qu'on est en train de livrer nos premiers clients, d'avoir nos premiers retours qui sont super positifs. Et donc du coup, ça nous donne plein d'énergie pour continuer pour la suite.
Ces montres, elles sont fabriquées à 86% en France, hein, c'est ça ?
Tout à fait, au niveau des composants.
Et une petite pièce qui ne pouvait pas être fabriqué dans l'Hexagone.
Ouais, la filière a disparu depuis une bonne quarantaine d'années. Et du coup, nous, on essaye de prendre un petit peu le contre-pied et de ramener en France. Donc du coup, il y a des choses qu'on a perdues.
Le cadran, notamment.
Le cadran. Alors ça, on a réussi à le relocaliser en France. On est les premiers à faire des cadrans traditionnels en France, mais surtout beaucoup de composants du mouvement. Et du coup, nous, notre démarche, c'est tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Et donc du coup, avec ça, on a plus de 90% de la valeur ajoutée du produit qui est apporté en France, qui règle l'économie locale et du coup qui crée des emplois.
Qui crée des emplois et qui redynamise toute une filière, un savoir-faire qu'on avait, hein, qu'on a toujours finalement, qui s'est juste endormi. Est-ce que depuis que vous avez lancé le mouvement, vous avez senti que les choses étaient en train de bouger ?
Alors on voit les choses bouger effectivement depuis quelques années, ça s'accélère depuis quelques mois aussi, il y a beaucoup de marques qui poussent. Et mes fournisseurs me font remonter qu'il y a de plus en plus de gens qui leur demandent de venir fabriquer. Le projet routine a eu aussi un écho qui inspire aussi d'autres gens, et ça j'en suis super fier. Ça répond à notre mission d'entreprise qui est vraiment de s'engager pour la filière, qui est passée de 50 000 emplois à 2 000, et si on peut ramener du job, et ben moi je trouve ça top.
Oui, c'est important parce que en janvier 2019 il y a deux fournisseurs qui ont déposé le bilan alors que vous étiez en pleine fabrication.
Exactement. On a lancé la fabrication en octobre, tout de suite à la fin du financement participatif. On avait à peu près trois mois de fabrication, et en mois de janvier, j'ai deux fournisseurs, un qui dépose le bilan, l'autre qui est en redressement judiciaire. Ça a été un moment fort à vivre, mais intéressant, parce qu'en fait, j'ai pris en pleine face j'ai compris le pourquoi de mon engagement aussi.
La réalité.
Exactement. Donc du coup, en fait, on voit là sous nos yeux des emplois qui disparaissent. Et donc ce que je raconte, en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et je suis super fier parce que j'ai eu tous mes autres fournisseurs qui se sont mobilisés avec moi, qui ont été à mes côtés, et on a ensemble réorganisé la filière. Et donc du coup, ce qu'on a perdu, on a réussi à le retrouver. Et donc du coup, et là, ce qui nous permet aujourd'hui du coup de livrer nos premiers clients.
Que dit Eric, notre coach ?
Bon, deux choses. Moi, ce qui commence à me plaire, c'est que ça fait 2-3 ans que Made in France est redevenu quelque chose d'intéressant, et beaucoup. Et ça, je pense que ce que tu fais avec Europe 1 et toute ton équipe, c'est quelque chose de clair, c'est montrer aux gens que c'est possible. Et ce que tu fais là avec Routine, c'est montrer que c'est possible, même dans quelque chose où nos amis suisses, et malheureusement j'ai une montre suisse au bras,
ont pris la main.
En plus, j'ai un autre associé qui fait des montres françaises à Bordeaux, et puis Baudet utilise Quant, il va falloir qu'un de ces quatre, et puis j'ai Routine en face.
Il y a encore des synergies. Voilà. Ce n'est que le début, Raphaël.
Mais commençons par les acheter, les montres déjà. Et ça devrait faire bien prendre. Mais moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que c'est enfin reparti avec une envie de jeunes, de gens qui ont des idées neuves, et que c'est possible. Ma seule question, il y a eu ces problèmes de perte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez trouver assez de financement pour justement, par exemple, pouvoir racheter ces gens qui ont le savoir-faire mais qui se perdent ou pas ? Quelle est ta levée de fonds ? Comment tu vas aller en chercher plus ? Et est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir le courage d'y aller pour lancer cette filière ?
Eh bien, en fait, on essaye d'être un exemple à ce niveau-là pour derrière pouvoir essayer d'effectivement de trouver des investisseurs qui vont nous aider sur la filière. On peut en discuter après l'émission, mais
ils écoutent les investisseurs.
Ah, non, un chiffre, Florian.
Il nous faudrait à peu près entre 1 et 2 millions.
Voilà.
C'est dit.
Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les trouver. On va essayer de faire en sorte que... que les investisseurs viennent soutenir Routine. Moi, je voudrais que vous nous disiez tous si vous avez eu finalement des opportunités après votre passage à Europe 1. Est-ce que vous avez senti que les choses bougeaient une fois que vous êtes venu dans La France Bouge, justement ? Est-ce que on continue, nous, l'année prochaine, oui ? Vous êtes d'accord ?
Avec plaisir.
Oui.
Je crois qu'il y a Mathieu Lucassi qui est...
Ouais, Mathieu.
Je voudrais raconter une petite histoire. Ça se passait aussi à l'époque de Circuit Court.
Oui.
Et du coup,
Anne Le Gall, Maxime Sutek qui était là l'année d'avant.
Exactement, tout à fait. Et voilà, moi j'étais un tout jeune entrepreneur, encore plus jeune qu'aujourd'hui. Je lançais en fait l'activité. Et à un moment donné, voilà, j'étais prêt, j'étais assis dans mon bureau, etc. Et puis maintenant, il fallait entre guillemets aller chasser le client, comme on dit dans le jargon. Et c'était plutôt calme. J'étais assis dans mon bureau, j'avais un téléphone en face de moi, il fallait que j'appelle, j'avais une liste d'entreprises à appeler, mais c'était surtout calme. Et ce qu'il s'est passé après, il y a eu cette connexion en fait avec Europe 1, et là, boum, magique, mon téléphone il a sonné pendant une semaine, et je me suis retrouvé à gérer des appels, à gérer des demandes, même hors Île-de-France, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment, et du coup, oui, j'ai vu vraiment l'impact du passage chez Europe 1.
Et on a un petit message pour
oui,
vous, je crois.
Oui, le message d'Alvine dans le Val-d'Oise qui a appelé pour saluer votre start-up, Mathieu Lucassi. Je trouve que c'est un super projet GobUse par rapport au recyclage. Les gobelets en plastique sont utilisés pour les imprimantes 3D. Des personnes en situation de handicap peuvent y travailler. Je salue votre projet, nous dit Alvine.
Merci.
Et nous, on vous salue tous. On prendra évidemment des nouvelles régulièrement de vos projets. Merci à Eric qui était notre coach. Merci à Laetitia, Aurélie et Lorraine qui ont fabriqué cette émission tous les jours avec nous.
Bravo
sur Europe 1. Merci à Elisabeth qui m'a accompagnée.
Merci à vous, Raphaël.
C'était le dernier direct
Merci
de la
vous.
Saison, mais vous savez quoi ? On part en vacances, mais on vous laisse les rediffusions. On sera là tout l'été et on vous retrouve évidemment à la rentrée.